Hello, welcome to the
Wunder Parlement.
Sans plus tarder, la parole au rapporteur.
Et on va discuter du futur de l'Europe.
Ah bah maintenant, c'est l'interview.
Alors nous sommes le 9 janvier 2024 en présence d'Anne Cordier, enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. C'est vrai tout ça ?
C'est vrai tout ça.
Et donc peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter comment est-ce qu'on en arrive à devenir enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication ? C'est parce que tu aimais pas le foot ?
Alors non, en plus c'est parce que j'aime le foot peut-être d'ailleurs. Je suis lensoise à la base et supportrice du Racing Club de Lens, donc j'aime le foot. Mais peut-être parce que, en fait, j'aimais m'informer sur le foot, et là, pour le coup, ce n'est pas une blague du tout. Je tenais des cahiers, dès le plus jeune âge d'ailleurs, des cahiers en fait, documentaires, où je récoltais tous les articles de presse, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc tous les articles de presse, les articles de Sang et Or Magazine, les articles de La Voix du Nord, et puis je les collais, et puis j'en faisais des petits documentaires... à la maison, ils sont toujours d'ailleurs présents à ma maison sur le football, et donc c'est pas finalement sans lien l'un avec l'autre. Et de façon générale, je me suis toujours en fait intéressée à l'enseignement. Je voulais être enseignante, donc j'ai d'abord été enseignante dans le secondaire. J'étais professeur donc documentaliste en lycée et en collège, et puis ensuite j'ai fait une thèse pour faire des recherches en sciences infocom, parce que ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur le rapport au numérique dans la classe, entre les élèves de 6e et les enseignants. Donc j'ai fait ma thèse sur ça. Et au fur et à mesure, donc j'ai continué en fait à travailler sur cette question-là, la question du rapport au numérique dans et hors la classe, et la question du rapport à l'information et aux médias, particulièrement des adolescents, et plus récemment, enfin maintenant depuis 3-4 ans, aussi des enfants, donc des beaucoup plus petits.
Alors les enfants, justement, en ce 9 janvier 2024, à l'invitation de la Maison de la Pédagogie de Mulhouse, il y a eu une rencontre avec des parents d'élèves, enfin essentiellement des mamans. Quelle position avoir quand on est parent et qu'on a peur de ces écrans? Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi? Quelles sont les peurs qui ont pu peut-être être levées? Ou est-ce qu'on a avancé cet après-midi avec ses parents?
Alors j'espère qu'on a avancé, c'est plus elles qui pourront répondre vraiment, mais en tout cas moi j'ai eu le sentiment qu'on a pu poser les choses ensemble. C'est vrai que le souci qu'on a aujourd'hui et qu'ont les parents aujourd'hui, c'est un ensemble de discours qui sont extrêmement culpabilisants. Sur la parentalité, sur le rapport aux écrans de leurs enfants, avec une grande part de fantasmes, de stéréotypes, de fausses informations aussi, scientifiques, sur le sujet. Et ça, c'est vrai que cette rencontre, elle a permis quand même de faire émerger tout ça assez spontanément, en fait, par ces mamans, que moi, j'ai finalement pas trouvé tant dans la peur qu'elles le disaient. C'est-à-dire qu'on a toujours cette tension, ce paradoxe, en fait, entre des parents qui disent « Oh là là, c'est compliqué, c'est un combat. » Et puis quand on rentre dans l'expérience du quotidien et qu'on échange plus longtemps en disant « Mais en fait, vous faites quand même plutôt ça ou ça, etc. » On les voit en train de dire comment elles posent des règles, comment elles réfléchissent aux règles qu'elles posent, comment aussi elles rient de certaines pratiques de leurs enfants, dans le sens positif du terme, pas en se moquant, mais en trouvant en fait, oui, ce sont des moments qui sont aussi des moments touchants. Et puis elles prennent conscience aussi des choses très positives qu'elles mettent aussi elles-mêmes en place et que leurs enfants développent avec, grâce aux écrans, quoi qu'en disent les détracteurs idéologiques des écrans. Mais là, moi, je ne fais pas de l'idéologie, je fais de la recherche.
Parmi tous les stéréotypes, les idées reçues qu'on peut avoir, déjà, l'addiction n'existe pas en réalité pour les enfants ou même les ados et les écrans, puisque l'addiction, quelle est sa définition officielle ?
L'addiction, c'est la mise en danger de soi dans un rapport à la survie physique, donc la mise en danger de sa propre vie à cause d'une activité trop intensive. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'addiction par rapport à l'alcool, on parle d'addiction par rapport à la drogue dure, par exemple, puisque de fait, une consommation excessive va conduire non seulement à une dépendance, mais à une dépendance qui va amener jusqu'à une mise en péril de son existence. Ce n'est pas le cas des enfants et des adolescents avec les écrans. Il y a une dépendance qui peut être visible, qui est visible à travers la dépendance d'ailleurs qu'on a tous et tous avec le smartphone. Hein. Où j'ai mis mon smartphone ? Où est mon smartphone ? C'est peut-être la question qui aujourd'hui terrorise le plus lorsqu'elle est lancée dans une maison. Avant, il y avait « Où j'ai mis les clés de voiture ?» qui était quand même aussi pas mal en concurrence. Mais là, où est mon smartphone ? De 5 ans à 75 ans, c'est la question qui pétrifie tout le monde dans une famille en se disant « Oh, où est le smartphone ?» Donc c'est pour ça que je parle de dépendance. C'est-à-dire qu'effectivement, on est devenu... Enfin, on est face à un objet qui rassemble tellement d'éléments de notre quotidien, nécessaires à notre quotidien, qu'effectivement, on en a furieusement besoin.
En matière de peur, panique, il y a aussi « mais il n'y a pas de Wi-Fi ici » qui est assez partagé chez les ados, enfin même chez les adultes.
Même chez les adultes. C'est pas...
Et donc, les enfants d'aujourd'hui, qui ne sont pas tout à fait ceux de la génération précédente, puisque eux, aujourd'hui, ils naissent avec les écrans. Hein, donc, on avait des mamans qui nous parlaient de leurs enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, où il y a déjà cette peur des écrans. Alors, comment est-ce qu'on éduque un enfant avec cette présence quasi systématique dans la famille, dans la société, à l'école des écrans ?
De la même manière qu'on l'éduque avec la présence des arbres, la présence des passages routiers, la présence de son environnement, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est assez frappant, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente une espèce de rupture anthropologique. Il y aurait un être d'avant les écrans, je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mot écran, et puis il y a un être d'aujourd'hui qui serait différent, qui n'aurait pas le même cerveau, etc. C'est complètement faux. Les études sont claires sur le sujet. Hein. On n'a pas de rupture anthropologique, on a une évolution d'un système, d'un environnement dans lequel on est inscrit. Dans cet environnement, effectivement aujourd'hui on apprend moins à traverser la rue en fonction de la calèche qui va passer, qu'en fonction de la voiture qui va passer. Et bien, de la même manière, aujourd'hui, dans le système d'éducation, dans certaines règles qu'on met en place, en tout cas dans certains paramètres à prendre en compte, il y a la question du réseau social, du jeu vidéo.
Certes, mais en matière de calèche, les enfants en savaient beaucoup moins que leurs parents. Alors qu'en matière de smartphone, en matière d'images, de réseaux sociaux, souvent ce sont les enfants qui en savent plus que leurs parents. Donc on a quand même un retournement pédagogique, si j'ose dire, qui n'a rien à voir avec ce qui nous a précédé.
Alors ça, c'est une forme d'idée reçue. Si je puis me permettre, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que l'enfant est habitué à utiliser quelque chose qu'il en devient un expert, qu'il en est un connaisseur. C'est-à-dire qu'il baigne, entre guillemets, c'est d'ailleurs très relatif aussi, on y reviendra, mais il baigne, entre guillemets, dans un réseau social. Ça ne veut pas dire qu'il sait ce que c'est qu'un réseau social, ça ne veut pas dire qu'il sait ce que c'est que les processus de captation des données, ça ne veut pas dire qu'il sait ce que c'est qu'un réseau social qui est payant par rapport à un gratuit, par rapport à un libre. Ça ne veut pas dire... En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, le fait d'utiliser. Moi, j'utilise une voiture tous les jours, je ne sais pas la réparer. Il faut sortir de cette idée de parce que tu utilises, tu es compétent. Et il y a vraiment une confusion avec ça, qu'on voit très très fort avec le numérique, avec cette idée qu'on a beaucoup martelée de dire aux parents, aux adultes de façon générale, et donc aussi aux enseignants dans l'école, de leur dire, non mais les élèves savent plus que vous. C'est complètement faux. Moi, je vais dans des établissements scolaires depuis maintenant trop d'années pour le dire. et en fait, en plus, j'ai repris un an avec la nouvelle année, forcément. Et donc, en fait, il y a vraiment des différences sociales et de compétences qui sont énormes entre les enfants. Et vraiment jusqu'à, il faut le dire, les enfants dont tu as parlé tout à l'heure, qui sont les enfants qui n'ont pas utilisé, qui ont des réseaux sociaux ou qui vont sur les smartphones très jeunes, ces enfants-là, moi je les vois aussi dans l'école, et quand ils sont face à un ordinateur avec une souris, ils ne savent pas utiliser une souris, ils ne savent pas utiliser un clavier. Parce qu'utiliser un smartphone et utiliser un ordinateur, ce n'est pas la même chose. Parce que partager une vidéo sur un réseau social, ce n'est pas monter une vidéo pour réaliser ou monter des coupes sonores pour réaliser un podcast. C'est pas la même chose que de produire un texte ou une aide de motivation. Enfin, c'est pas les mêmes compétences en fait qui sont en jeu.
On a encore besoin des ordinateurs aujourd'hui, alors que chacun de nous, ou presque, on a un ordinateur en poche 24 heures sur 24.
On est d'accord. Alors, allons maintenant dans les entreprises. Dans les entreprises, il y a encore des locaux complets avec des ordinateurs portables partout. On va dans tous les journalistes, tous les graphistes travaillent avec des ordinateurs portables. Dans les entreprises, c'est la même manière pour diriger les machines. Quand on va dans les industries, enfin dans les, je pense je suis en train de penser en fait aux mécaniques de montage des voitures, c'est des ordinateurs qu'on a, c'est pas des smartphones en fait. Hein. Donc oui, on en a encore besoin, on en a encore besoin pour certaines tâches et même pour beaucoup. Hein. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une éducation au numérique qui prenne en compte la totalité des outils numériques et pas de mettre un espèce de gloubi-boulga écran qui veut rien dire. Parce que ça mélange toutes les compétences, ni de se focaliser que sur le smartphone, qui est un des écrans, si on veut continuer d'utiliser ce terme-là, parmi d'autres.
Mais cette éducation numérique, est-ce que ce n'est pas plutôt les parents et les éducateurs de l'enfant et de l'adolescent qui en ont besoin ? Est-ce qu'il ne faut pas apprendre aussi comment ça marche tout ça, si on n'est pas né dedans ? Comment est-ce qu'on peut accompagner efficacement un enfant si on ne maîtrise pas les outils numériques qu'il utilise ?
Alors, première chose, il faut arrêter de penser que les parents ont 95 ans. C'est-à-dire que, très concrètement, je suis désolée, hein, mais c'est-à-dire que les parents qui sont nés dans les années 70-80 sont déjà des parents nés dans un monde ultra médiatique, d'accord, avec déjà des jeux vidéo, et qui ont connu eux-mêmes, pour ceux qui sont nés dans les années 80, l'informatique à l'école. Plan informatique pour tous, 85, par exemple. Oui, je sais, mais il faut arrêter de faire croire que ce sont des mammouths qui élèvent des petits oiseaux aujourd'hui. Hein. Les parents ont aussi, se sont adaptés, les adultes se sont adaptés, et d'ailleurs ce sont ces adultes-là qui ont créé les réseaux sociaux dans lesquels les enfants d'aujourd'hui sont. Et par rapport à cette histoire aussi des compétences, il ne s'agit pas d'être « né dedans », entre guillemets, pour être compétent. Et donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas « né dedans » que je n'ai pas plus de compétences que celui qui est « né dedans ». Il faut sortir de cette idée de l'habitude d'utiliser quelque chose égale développer une expertise sur. Ça, c'est vraiment une erreur, mais gravissime, qui condamne, du coup, systématiquement à être en retard. Parce que de fait, ah ben oui, alors dans ce cas-là, les enfants d'aujourd'hui, ceux qui ont 15-18 ans, je suis désolée, mais ils sont déjà dépassés par rapport à ceux qui ont 5 ans. Enfin, on n'en sort plus en fait de cette histoire. Donc il faut arrêter avec ce discours-là qui est infécond, je pense, et puis qui n'est pas vrai socialement. C'est-à-dire que les adultes, et je prends volontairement le terme d'adulte pour englober les médiateurs, les parents, les enseignants, tous les gens qu'on veut, les plus vieux, quoi. Les adultes ont des connaissances et des compétences et une capacité aussi de monter en concept que n'ont pas les enfants. Un exemple tout bête, hein, expliquer à un adulte ce que c'est qu'un réseau, ça va plus vite que de l'expliquer à un enfant. Contrairement à ce qu'on dit. Les gamins sont tous les jours en réseau. Ils vivent tout le temps en réseau. N'empêche que quand ils viennent faire une recherche sur un poste informatique au CDI du collège, le gamin, il fait une recherche sur le poste A, il arrive l'heure d'après, il veut continuer sa recherche et il n'y a que le poste B qui est libre. Une fois sur deux, le gamin dit au prof « Mais je peux pas aller là, ma recherche, je l'ai fait là !» Ça veut dire que le gamin, qui sûrement est blindé d'heures de TikTok, de tout ce qu'on veut, bah ce gamin-là, il ne sait pas ce que c'est qu'un réseau.
Et alors, comment on fait pour expliquer un réseau à un enfant ?
Eh bien, on lui explique tout bêtement, on lui montre. Alors, avant, on parlait de toile. Et en fait, c'est pour ça qu'on parlait de toile d'araignée pour parler du web dans les jeunes années. Et en fait, on lui montre, on lui explique, tu vois, en fait, on lui montre une petite boîte, on lui dit ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle un serveur. Et puis en fait, ça va relier, on fait des petites routes et on lui montre que ça va relier plein de choses différentes entre elles, mais que tout part du même endroit. Et donc, toutes ces choses-là, elles vont venir interroger, donc ça fait comme une sorte d'étoile, elles vont venir interroger le système du milieu. Donc finalement, peu importe l'endroit où je me trouve par rapport au système du milieu, tant que je suis connectée au système du milieu. Ça, c'est un réseau. Ça veut dire être en réseau. Ça s'explique à un enfant dès le plus jeune âge. On le fait dans l'école. On peut le faire dans l'école dès le plus jeune âge. Et à la question, est-ce que c'est aux parents de faire ça ? Non. L'éducation au numérique, c'est à l'école de le faire. On ne peut pas demander à des parents d'avoir des compétences expertes sur un sujet qui est compliqué. Les parents, ils sont là pour accompagner dans la parentalité. Je m'explique. Le parent, il n'est pas là pour apprendre à son enfant ce que c'est que le théorème de Pythagore. Et un prof de maths pour expliquer ce qu'est le théorème de Pythagore. Ok ? Et le parent, il va accompagner l'enfant pour que ben, il arrive au mieux à faire le devoir qui est demandé et à poser des questions par rapport au devoir qui lui est demandé avec le prof. Mais c'est l'enseignant qui va être le garant de pouvoir le transmettre à tous les enfants, la connaissance sur le numérique. Parce que le problème qu'on a quand on dit « c'est aux parents de le faire », c'est que c'est bien pratique. Parce qu'il y a des parents qui ne peuvent pas le faire. Tout le monde n'a pas ces connaissances-là, tout le monde n'a pas cette maîtrise-là.
Oui, mais enfin, dire c'est aux enseignants de le faire, c'est pas bien pratique aussi. Est-ce que tous les enseignants sont des experts en éducation au numérique ?
Tous les enseignants sont formés, ils doivent être formés. Et là aussi, les enseignants n'ont pas 95 ans. Et les enseignants qui, aujourd'hui, quand même, la moyenne d'âge en ce moment hein, de l'éducation nationale, c'est 40-45 ans. D'accord ? On en revient au même, hein, ils sont nés dans les années 80, ces gens-là, hein, au pire. D'accord ? Il faut arrêter aussi de présenter l'école comme, et les enseignants comme des gens qui sont complètement largués. Enfin, que je sache, pendant le confinement, waouh, ils ont assuré nos profs en France, hein, et on ne leur a pas donné les moyens de le faire, hein, soit en passant. Donc, ils l'ont fait. Et vraiment, ils le font. Par contre, que les moyens ne sont pas suffisamment mis en place, qu'ils ne soient pas suffisamment bien formés pour le faire, et que parfois, on prenne des mesures qui vont à l'encontre de la logique éducative et pédagogique, du genre interdire l'accès des réseaux sociaux avant un âge alors qu'on leur demande d'éduquer en même temps au numérique les enfants dès le cycle 2, ça c'est de la responsabilité de l'institution.
Le cycle 2, pour ceux qui...
Le cycle 2, c'est le CP. C'est le CP.
Dans les autres idées reçues, stéréotypes, etc., il y a aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo, qu'on le veuille ou non, c'est l'industrie de loisirs numéro un dans le monde. C'est un plus gros chiffre d'affaires que le livre ou la musique ou le cinéma. Et on en parle très peu par rapport à ces autres moyens d'expression. Aujourd'hui, il y a peut-être 3 ou 4 milliards de joueurs sur cette planète. C'est la solution pour les parents d'aller jouer avec leurs enfants aux jeux vidéo qu'ils pratiquent. Parce que ça, c'est une préconisation des éditeurs de jeux vidéo. Évidemment, ils aimeraient que le monde entier joue à leurs jeux, les parents, les grands-parents, les enfants. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut participer à l'éducation numérique vis-à-vis des jeux vidéo ?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est quand même de rappeler que la sociologie des joueurs de jeux vidéo est beaucoup plus complexe que ce qu'on nous fait croire. Hein. On nous parle tout le temps de garçons et de jeunes. Et en réalité, il y a des recherches en sociologie qui sont faites sur les jeux vidéo et qui montrent bien que quasiment on joue de 7 à 77 ans aujourd'hui hein, et que les femmes sont aussi des grandes joueuses. Parce que là encore, qu'est-ce qu'on met derrière jeu vidéo ? Candy Crush, c'est un jeu vidéo hein, que vous avez sur votre smartphone. Le jeu du Snake, le fameux serpent. Qui paraît vieux, mais qui en fait est encore hyper utilisé dans le métro. C'est incroyable le nombre de gens qu'on voit faire ça dans le métro. Ça, c'est aussi du jeu vidéo. Alors, sur la question de faut-il jouer avec ses enfants pour les éduquer au numérique ? Moi, je suis pas là pour dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il faut s'intéresser aux activités culturelles de ses enfants et à ses pratiques culturelles. Le jeu vidéo, vous l'avez dit, c'est une pratique culturelle comme une autre, prépondérante dans les industries culturelles, mais dans tous les cas, c'est une pratique culturelle, comme la pratique de la musique, comme la pratique du dessin, comme la pratique de la lecture. Donc s'intéresser à ce que l'enfant fait et à son univers fait partie d'un accompagnement éducatif, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'éduque à particulièrement quelque chose, juste on s'intéresse à lui. On reconnaît la valeur de cette pratique culturelle.
Et beaucoup de parents font ça ? Enfin, est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce que sur l'accompagnement en matière de jeux vidéo, parce que c'est pas facile, hein, en tant que parent, on peut essayer de jouer à League of Legends ou Fortnite, voilà. Mais je veux dire, c'est pas forcément adapté aux parents. Hein.
Mais non, mais alors, il y a plusieurs choses. On n'a pas de chiffres, et moi, j'ai pas dit qu'il fallait jouer avec. J'ai dit qu'il fallait s'intéresser à, ce qui n'est pas la même chose. Hein. C'est un petit peu comme... Alors, je vais parler aux parents d'aujourd'hui qui ont des enfants, donc du coup plus jeunes. Mais c'est un petit peu la même chose quand on a été fan des boys band ou de rap dans certaines années où on refaisait des chorégraphies. Les parents, enfin moi mes parents n'ont pas fait avec moi les chorégraphies des To Be Free, quoi, clairement. Mais que les parents s'intéressent à cette pratique-là, à cet univers-là, quel plaisir t'en as, pourquoi t'aimes ça, qu'est-ce que c'est ? Ça fait partie d'un dialogue, en fait, au sein de la famille, tout simplement. C'est tout. Je ne dis pas que les parents doivent devenir complètement accros à Fortnite et jouer à ramasser des... Voilà, ce n'est pas ça le but.
Et donc, quand on a des enfants qui sont ultra fans de jeux vidéo, donc qui passent le plus d'heures possible, 3 heures, 8 heures par jour, quand c'est le week-end, enfin bref, qui sont alors peut-être pas accros, mais en tout cas... qui sont passionnés et qui font plus que ça, est-ce qu'on s'inquiète ou est-ce que c'est tellement merveilleux?
Bah déjà, si le gamin est arrivé à 8 heures, on aurait déjà dû s'inquiéter depuis un moment. Parce que je pense qu'il y a un moment où il faut être clair aussi. C'est-à-dire que l'enfant ne vit pas seul en ermite avec un smartphone ou une console de jeu. Et à un moment, on l'a équipé de cet objet. C'est moi, ça m'énerve cette expression de naître avec. Enfin, le bébé, il n'y a pas un kit qui est fourni avec le bébé, avec tiens, hop, en même temps, t'as le kit, ton smartphone, ta console de jeu. Non, non, il y a un moment où on prend des décisions qui est de l'équiper. Le téléphone n'est pas tombé du ciel. Le gamin, on l'a équipé à un moment. Hein.
Ouais, si les parents n'achètent pas le iPhone à 1000 boules, ça peut être les grands-parents.
Alors ça, c'est vrai. Mais sociologiquement, là aussi, il faut être très clair. Les études qui sont menées sur le sujet montrent bien que ce sont les parents qui équipent leurs enfants et ce sont les parents qui équipent les enfants de plus en plus tôt, non pas à la demande des enfants, mais parce que les parents veulent équiper leurs enfants pour pouvoir les pister, les géocaliser et les surveiller. Et ça aussi, c'est un discours qu'il faut qu'on assume. Parce que dans les études sociologiques, c'est très très clair.
Enfin, ils ne le disent pas comme ça, hein. Ils disent que c'est pour la sécurité.
La sécurité de leur enfant. Mais on leur a tellement fait peur aussi. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on a tellement fait peur aux parents. On leur dit tellement qu'ils sont irresponsables. En fait, c'est schizophrénique. Le parent est irresponsable si son enfant n'a pas de téléphone et que alors il pourrait disparaître dans la nature de 8h à 18h, genre par exemple à l'école. Comme beaucoup d'enfants scolarisés, me semble-t-il, normalement obligatoirement en France, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc, il ne faudrait quand même pas que le parent l'abandonne à l'école. Donc, on va culpabiliser. Mais en même temps, on va culpabiliser le parent s'il a équipé son enfant d'un smartphone parce que tu te rends compte qu'il est sur TikTok. C'est schizophrénique pour les parents aussi.
Il y a des études qui montrent que les enfants s'éloignent de moins en moins de leur domicile et passent de moins en moins de temps dehors.
Tout à fait.
Et est-ce que ça, c'est la vie numérique qui grignote la vie extérieure ou il n'y a pas de lien entre les deux ?
En fait, il y a une tendance, ça c'est une tendance qui est vraiment observée depuis des dizaines d'années en fait. Hein, déjà, en fait, c'est arrivé avec l'individualisation, je l'ai dit en une seule fois. C'est arrivé avec l'individualisation des pratiques médiatiques. Et donc, en premier lieu, la télévision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu la télévision dans le foyer et du moment où on a eu plusieurs télévisions, dont une télévision dans la chambre de l'enfant, on a eu en même temps une individualisation en fait, des loisirs et on a profondément modifié les loisirs des enfants. Et on est rentré dans ce qu'une chercheuse a appelé la culture de la chambre. C'est-à-dire que finalement, l'enfant a investi complètement sa chambre et les parents ont investi la chambre de l'enfant aussi, comme un espace de loisirs sécurisé, individualisé, personnalisé, avec au départ la télévision et maintenant la tablette, la console, le smartphone, etc. Donc c'est une tendance qui est beaucoup plus large que liée au numérique. On l'a observé bien avant avec la télévision.
Alors, une tendance encore plus large et ancienne que le numérique, c'est le capitalisme et sa société de consommation. Alors aujourd'hui, parfois, on semble découvrir que les algorithmes nous incitent à consommer, nous envoient des publicités ciblées pour qu'on dépense plus d'argent. Mais est-ce qu'il n'y a rien de neuf là-dedans, en dehors de l'aspect numérique ? La consommation et le capitalisme, c'est de pousser un citoyen quelconque à acheter un truc dont il n'a pas besoin. On en est toujours là. Est-ce que ce n'est pas le problème, plutôt le capitalisme et la société de consommation, que les algorithmes qui font dépenser ?
Ah bah, en fait, le problème, c'est quel modèle de société on veut ? Pour nos enfants et pour nous-mêmes, hein, d'ailleurs, parce que c'est bien de penser à nos enfants, mais pensons aussi à tout le monde. Mais c'est vrai, quel modèle de société on veut? Et finalement, quand on condamne les algorithmes, ça ne veut pas dire grand-chose, d'ailleurs, parce que tout est algorithme. Hein, y a une chercheuse qui s'appelle Aurélie Jean qui travaille beaucoup sur la question des algorithmes et qui dit bien que, de toute façon, sans algorithme, en fait, on ne peut pas fonctionner, notamment dans notre société moderne et technologique. L'algorithme est présenté aujourd'hui comme un truc hyper méchant et mauvais, mais c'est l'algorithme qui permet aussi d'accéder à des bases de données. C'est l'algorithme qui va générer aussi des choses très positives, notamment dans le domaine de la santé, hein, qui va permettre de calculer aussi des parcours de soins individualisés, personnalisés, adaptés, moins lourds. Donc c'est important de le prendre en compte parce qu'on dit un peu n'importe quoi sur la question des algorithmes aujourd'hui. En fait, on confond les algorithmes et les stratégies des plateformes capitalistes. Et là aussi, attention, tout le web n'est pas capitaliste. Et ça, c'est une vraie erreur dans la conception qu'on a eue et qu'on a peut-être faite du web. C'est-à-dire que le web, il est comme notre société. C'est nous qui avons décidé le modèle et c'est nous qui l'entretenons tel qu'il ou qu'elle est. Hein. Et le modèle qui a gagné dans le web, c'est le modèle capitaliste, qui n'était pas le modèle de départ, il faut quand même le rappeler. Hein, et que il y a aussi tout un mouvement d'utilisation d'outils numériques qui s'appelle donc le mouvement libre, le mouvement des communs, et qui promeut un autre mode de fonctionnement avec des algorithmes aussi, hein, parce que sans algorithmes on peut pas faire de techno, mais qui ne récupère pas de données, qui ne capitalise pas de façon financière sur les données. Quel modèle de société on veut?
C'est sûr, hein, si on veut rencontrer personne, on peut aller sur un réseau social qui s'appelle Mastodon par exemple.
Mais alors, non, mais c'est un vrai sujet que vous pointez. C'est-à-dire qu'effectivement, on a. Moi, c'est ce qui m'énerve aussi parfois quand on dit aux gens, du coup, il faut se libérer de tout ça. Mais ça veut dire qu'il faut tout couper. Et sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que on a entraîné les gens à aller sur Mastodon par rapport à Twitter X, donc, qui est toujours devenu la grosse bête noire actuellement du numérique. Ça varie, hein. On a eu Facebook, après on a eu TikTok, maintenant c'est X, on verra demain ce que ce sera. Et en fait, Mastodon, ça fonctionne pour les gens qui en fait ont l'habitude du libre, parce que c'est vraiment un fonctionnement de serveur qui est très particulier et qui fonctionne quand on est des utilisateurs du web libre déjà à la base. Et c'est aussi des réseaux qu'on utilise quand on est des militants du libre. Et donc les gens se sont vite trouvés assez dépourvus sur Mastodon parce que le mode de fonctionnement est très différent. Puisqu'il ne capitalise pas sur les données et les traçages, ça suppose de savoir ce qu'on veut. Et c'est beaucoup plus exigeant, du coup. Hein. Et ce qui est intéressant, là, c'est de voir aussi qu'on encourage beaucoup les gens. Enfin, il y a eu tout un mouvement de « il faut aller sur Sky Blue hein, », donc sur le fameux ciel bleu, l'autre réseau qu'on nous présente comme une alternative. Et apparemment, beaucoup de gens qui, là, en début 2024, prennent la décision de quitter Sky Blue et de revenir à X.
Alors, les lois, on adore faire des lois en France, mais en Europe aussi. Hein, donc, une des plus connues dans le monde numérique, c'est le RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données, qui, en gros, nous oblige à choisir si on veut recevoir des publicités ciblées ou pas. Hein. Ça ne change pas énormément, fondamentalement, la donne. Mais ces lois qu'on invente et qu'on vote, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est plutôt les plateformes GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc., qui déterminent les lois qui régissent notre vie numérique? Notamment sous un esprit très états-unien, aujourd'hui, un morceau de sein en photo ou même en dessin ne passe pas sur Facebook, Instagram. C'est tellement honteux. Par contre, on a le droit d'être nazi ou du Ku Klux Klan. Hein. Enfin, et donc, quelque part, c'est la législation états-unienne de libre expression et d'une pruderie hallucinée qui gagne en ligne et qui régit nos vies numériques, ou bien?
En fait, c'est vrai que ce qui est compliqué, en fait, c'est que vraiment, le web, c'est un espace qui est extrêmement compliqué à légiférer. Parce qu'en réalité, les lois s'appliquent dans des territoires, au sens de la géographie sociale, c'est-à-dire vraiment des espaces identifiés avec des frontières, avec des bornes, très concrètement, hein, physiques. Et le fait que l'espace numérique soit du coup un espace à territorialiser quelque part, donc sans territoire, ça conduit à ce que les législateurs cherchent à transférer un modèle qui est difficilement transférable, puisqu'il n'y a pas de territoire en tant que tel. Du coup, ce qu'on va prendre en compte, c'est les territoires d'appartenance des serveurs. D'où le fait qu'on a vu aussi pas mal, lors de la publication du RGPD, du Règlement Général de la Protection, sur la Protection des Données, on a vu pas mal de firmes changer leur serveur de place pour que leur serveur échappe à la législation, puisque la législation du RGPD s'applique pour les personnes vivant dans l'Union européenne. Et donc, quand on sortait les serveurs de l'UE, hop, on n'était plus concerné par cette question-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une espèce de jeu un peu du chat et de la souris qui est mis en place tout le temps. Et puis, il y a une puissance, il y a une forme de lobbying aussi quand même, des industries et des plateformes. Et ça, voilà, il ne faut pas être des gros naïfs. C'est-à-dire qu'on sait très bien la puissance de frappe des industriels type Alphabet, donc... Google ou Meta, etc. Et évidemment que le législateur, tout en, évidemment, j'imagine bien, ne souhaitant pas leur faire la part belle, néanmoins, les entend aussi.
Mais le législateur ou la collectivité territoriale qui a envie de libre, est-ce que c'est véritablement possible, hein, parce que je sais pas, LibreOffice par exemple, c'est une suite bureautique gratuite, open source, Windows Office continue à exister et à se vendre. La ville de Mulhouse fait un chèque de 100 000 euros chaque année à Windows, alors qu'il pourrait utiliser Linux et LibreOffice. Enfin, est-ce que quelqu'un a véritablement envie de ça ? La gendarmerie nationale a choisi LibreOffice parce que c'est plus simple à installer sur chaque poste. Seulement, ils veulent surtout le dire à personne parce que c'est mal vu d'utiliser des logiciels libres. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a une réelle volonté politique pour aller vers les logiciels libres ou bien est-ce que c'est juste de l'affichage temps en temps et on est très heureux avec les GAFAM ?
C'est très compliqué parce qu'on est très heureux avec les GAFAM parce qu'elles génèrent des revenus et puis qu'elles permettent aussi de se positionner dans le domaine des high-tech de façon vue comme valorisante. Mais en même temps, il y a aussi des volontés politiques. Donc en fait, c'est en fait un monde assez nuancé. Par exemple, je pense à ça parce que c'est bien dommage que la ville de Mulhouse fasse ce type de contrat. Parce que par exemple, dans l'éducation nationale, on a pendant longtemps fustigé l'éducation nationale qui avait passé des accords avec Microsoft Éducation. Ce qui fait que tous les enseignants et tous les élèves de France ont, pendant plusieurs années, été équipés. Et n'avaient accès qu'à des suites Microsoft Office. Ce qui fait que du coup, les enseignants, évidemment, chez eux et les enfants chez eux s'équipaient aussi en Microsoft Office. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce qu'on a créé des usagers à vie quasiment de Microsoft Office parce que ces enseignants-là, et pour le coup, même là, pour ceux que avec lesquels j'enquête et qui veulent absolument bouger dans leur pratique et qui condamnent ça, passent leur temps à dire « Oui, mais par contre, se remettre à un autre... » C'est compliqué de changer de logiciel, littéralement, et de devoir avoir une autre interface, un autre mode de fonctionnement, et puis du coup, c'est pas compatible avec les autres, etc. Il n'empêche que là, l'éducation nationale, enfin, a grandi sur le sujet, a grandi de façon positive. Donc, j'aime bien en dire du mal, parce que quand on aime quelque chose, on le châtie bien aussi. Mais là, j'aime bien aussi en dire du bien, et pour le coup, je dois reconnaître cette volonté-là au ministère de l'Éducation nationale. Ils ont arrêté l'accord avec Microsoft Éducation et plus que ça encore, maintenant, il y a une section de... Alors on ne dit pas section, il y a un bureau, pardon, du ministère qui est consacré au libre éducatif avec le déploiement, du coup, d'outils libres pour l'éducation et des établissements qui mettent en place, au fur et à mesure, des systèmes entièrement sous Linux dans l'établissement. Alors, il n'empêche que c'est très, très long, très, très compliqué. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, et vraiment je reviens à ça, ce sont aussi des usagers sociaux de Microsoft à la base. Et donc même dans des établissements, là par exemple j'enquête actuellement même dans un établissement des Hauts-de-France où il y a vraiment toute une équipe de collègues qui met en place un système sous Linux avec un label lycée des communs, enfin voilà, ils sont vraiment hyper engagés dans ça. Il n'empêche que le collègue a fait des formations aux autres collègues de l'établissement et que voilà, les profs qui étaient là disaient « oui, moi j'ai envie ». Et en même temps, on disait, ouais, mais moi, à la maison, Je suis sous office. Alors, le collègue leur dit, non, mais t'inquiète, je t'installe Linux sur ton poste, et puis, etc. Oui, mais c'est compliqué, parce que les postes au CDI, bah, ça reste quand même des postes qui sont avec, qui sont pas avec Linux. Donc, enfin, voilà, il y, y a vraiment... C'est compliqué, mais parfois, il y a de la volonté. Il faut aussi la reconnaître.
En plus, on économise plein d'argent avec les logiciels libres.
Oui, et puis, autre, alors, en dehors même de ça, enfin, quel modèle de société on veut ? Enfin, c'est-à-dire que vraiment, il y a en dehors de l'économie d'argent, il y a aussi porter des valeurs. Les valeurs des communs, c'est les valeurs du partage, c'est les valeurs de partage de connaissances, de partage de sources informatiques. C'est des figures, Aaron Swartz, qui est quand même une figure fascinante du monde des communs, qui a lutté contre le fichage dans la société américaine, sous l'ère d'ailleurs aussi Obama, où il a été d'ailleurs condamné sous l'ère Obama. On l'oublie souvent de le dire, donc j'insiste. Et Aaron Swartz, qui est une figure, pour moi, une des figures modernes de la résistance aujourd'hui, en fait. Qui en fait représente cette jeunesse contre aussi ce monde capitaliste du web.
Alors en matière de logiciels libres et d'informations gratuites, on a un magnifique exemple qui est Wikipédia, où tout n'est pas juste à 100%, hein, mais quel média peut se targuer d'avoir aucune erreur à son tableau ? Comment est-ce qu'on fait pour s'informer aujourd'hui ? Est-ce qu'on va sur Wikipédia ou sur TikTok plutôt ?
Non, on fait ce qu'on veut. en fait, déjà, TikTok n'est pas une source. TikTok n'est pas une source.
Certes,
TikTok est un réseau social sur lequel je vais pouvoir accéder à des articles du Monde, car le Monde est sur TikTok, sur lequel je vais pouvoir accéder aux articles de Tonton Bernard. Bon, ça dépend de qui est Tonton Bernard et quelle est la fiabilité des propos de Tonton Bernard. Je vais aussi tomber sur des articles du ministère de la Culture. C'est quand même le ministère de la Culture. Enfin, d'accord. Donc, c'est important, ça, de le redire. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, comment on s'informe aujourd'hui, comme hier, avec un regard curieux et critique sur le monde, avec une connaissance des sources. Et là, encore une fois, c'est le rôle aussi, je suis désolée, mais de l'école. Et c'est ce que, d'ailleurs, beaucoup d'enseignants font. Qu'est-ce que c'est qu'une source ? Comment on identifie la fiabilité d'une source ? La pertinence aussi d'une information par rapport à son besoin ? Il n'y a pas de règles précises. Ben non.
Mais ce n'est pas évident pour un adulte. Mais non. Alors, pour un jeune, pour un ado, quand il apprend un truc, il l'a appris sur TikTok, par exemple. La source, il ne la connaît pas en
et
vrai.
Ben, alors,
donc, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, d'abord, ce n'est pas toujours vrai qu'ils ne la connaissent pas. Première chose, moi qui mène des recherches auprès des enfants et des ados sur le sujet, et pour le coup, depuis 2018, j'ai enquêté de façon vraiment ciblée sur plus de 250 ados qui vraiment montrent en fait une connaissance parfois précise des sources qu'ils utilisent, des comptes sur lesquels ils vont s'informer. Ils me parlent d'Hugo Décrypte, ils me parlent de Geopolitics, ils me parlent de Dr Nozman, qui sont donc des créateurs de contenu sur le web et qui publient des contenus parfaitement intéressants, tout à fait fiables, et d'ailleurs parfois utilisés par les enseignants dans l'école, parfois même recommandés par le ministère de l'Éducation nationale pour Hugo Décrypte. Hein. Donc c'est plus complexe que ça. Et puis, il y a une solution sinon, en fait. Moi, j'ai une vraie solution. Hein. Informons-les avec un seul média qui dit la vérité.
Ça s'appelle la Pravda, oui, c'est vrai.
Eh bien oui, mais soyons clairs, c'est-à-dire que s'informer, c'est un risque. Mais quelle chance de disposer de ce risque de pouvoir se tromper d'information. C'est une chance parce que ça veut dire qu'on est dans un pays démocratique où les enfants et les adolescents et les adultes peuvent s'informer et peuvent accéder à des contenus créés par des gens qui disposent d'une liberté d'expression qui est garantie en France, et c'est quand même hyper important, que des médias de toute ligne éditoriale, voilà, je vais y arriver, autorisée évidemment, enfin légale, hein, on s'entend, hein, mais puissent s'exprimer en France. Et dire ça le 9 janvier, deux jours après une date anniversaire, malheureusement restée célèbre, les attentats de Charlie Hebdo, je pense que c'est important de le rappeler.
Mais justement, dans l'éducation aux médias, à l'informatique, au numérique, etc. On parle souvent d'esprit critique pour nos enfants. Mais est-ce qu'ils ont le droit d'avoir l'esprit critique vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis de l'éducation nationale, vis-à-vis des enseignants et vis-à-vis de l'État et de la préfecture ? Ou est-ce que c'est interdit ?
Eh bien, en fait, c'est vrai que moi, ce terme d'esprit critique, il me dérange beaucoup. Parce que, et oui, en fait, parce que ce terme, on l'utilise aujourd'hui beaucoup. Pour moi, c'est un peu de la tartinade. Je ne sais pas si ça se dit à Mulhouse, mais c'est de la tartinade. C'est-à-dire qu'on va peut-être prendre une petite couche d'esprit critique. Et puis l'esprit critique, tu diras ça, tu feras ça et tu feras ça. On ne prescrit pas un esprit critique par définition. Et en fait, il y a une phrase de Condorcet que moi j'aime beaucoup. Donc Condorcet qui n'a pas travaillé sur les réseaux sociaux en l'occurrence, mais que je trouvais intéressante, qui disait « Nous ne voulons pas que les enfants deviennent ce que nous sommes, nous voulons qu'ils grandissent par eux-mêmes. » Et je pense que c'est important qu'ils apprennent par eux-mêmes, qu'ils grandissent par eux-mêmes. Cette histoire d'esprit critique, je m'en méfie beaucoup, parce que la façon dont c'est utilisé aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, hein, c'est une façon de hiérarchiser des pratiques, voire des sources, et de légitimer aussi des modes de fonctionnement au détriment d'autres. Et par moments, on ne sait plus si on parle d'esprit critique ou de modélisation de l'esprit ou de regard critique et ouvert sur le monde, ce qui n'est pas la même chose. Donc il faudrait s'entendre sur ce qu'on veut dire par esprit critique. Parce que esprit critique, à ce jour, on ne comprend pas toujours exactement ce que les gens mettent derrière.
Ce qu'on peut mettre derrière, c'est des collégiens qui pensent que les Illuminati gouvernent le monde aujourd'hui, ou 10% des Français qui pensent que la Terre est plate. Comment est-ce qu'on fait?
Ça, ce n'est pas de l'esprit critique. Ça, c'est de l'inculture scientifique.
Oui, mais,
mais c'est là que c'est important. C'est différent.
Certes. Mais comment est-ce qu'on prouve à un ado que l'homme a mis les pieds sur la Lune alors qu'il lui dit « Ouais, mais le drapeau, il flotte alors qu'il n'y a pas d'air sur la Lune ?» Enfin, se retrouve à ne pas être d'accord sur les faits. Factuellement, on n'est pas d'accord. Comment on réagit? Quelles sont les solutions?
Alors déjà, ça, c'est un cas qui est assez courant et qui n'est pas nouveau. Hein, la remise en cause de faits comme celui-ci, le pas sur la Lune, l'assassinat de Kennedy, enfin, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, on a souvent des choses comme ça dans l'histoire. Et je pense que ce qui est important, en fait, et c'est de développer une culture scientifique. Moi, plutôt qu'esprit critique, j'aime parler de culture scientifique dans l'école et en dehors, c'est-à-dire de différencier ce que c'est qu'une opinion, de ce que c'est qu'un fait, de ce que c'est qu'un expert, de ce que c'est qu'un chercheur, de ce que c'est qu'un spécialiste, de ce que c'est... Parce qu'en fait, c'est ça. On mélange tout. On mélange l'opinion, le fait, la preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve aussi, en science, en histoire, en lettres, et c'est important de retravailler sur ça à partir de ces cas-là, par exemple. On a dans l'histoire des cas et des cas aujourd'hui, on parle de deepfake, donc des images truquées, de vidéos truquées, mais on en a dans l'histoire. On a des images célèbres, d'ailleurs, dans les manuels scolaires même d'histoire, où il y a un discours de Staline ou Trotsky, et en fait, sur le côté, donc au moment de la Révolution russe, quand on enseignait la Révolution russe en classe, et où les profs nous disaient, voyez, là, avant, après, il y avait une photo où il y avait Trotsky, puis une photo, il n'y avait plus trop de ski. C'était les premiers trucages de photos qu'on nous montrait. Et je pense que c'est important de travailler et de montrer ces cas-là, de dire, voilà, ça a déjà existé. Sur quoi reposent aussi ces discours-là? Parce que les gamins qui disent ça, ils sont accédés à des créateurs de contenu qui, effectivement, essayent de démontrer par A plus B que. Et il faut pouvoir reconnaître qu'on a un besoin de culture scientifique qui dépasse finalement la matière elle-même scientifique, hein, pour aller vraiment vers c'est quoi un fait, c'est quoi une preuve, c'est quoi une opinion, c'est quoi une pensée, c'est quoi une démonstration, etc. C'est très compliqué.
Comment pouvoir être confiant face à des gouvernements qui nous mentent sans arrêt? Alors peut-être que les gouvernements démocratiques mentent un peu moins que les dictatures, mais entre le Rainbow Warrior, un attentat réalisé par l'État français, hein, contre un navire de Greenpeace avec un mort, enfin l'État français terroriste, la guerre d'Algérie qui n'était pas une guerre, hein, jusqu'en 1999 en France, c'était les événements. Enfin, les États-Unis qui inventent des armes de destruction massive pour pouvoir écraser l'Irak, etc., etc. Enfin, tout le monde nous ment aux presses. Comment croire encore à quelqu'un, à une source d'information fiable? Qui est fiable aujourd'hui?
Alors, d'abord, je pense qu'il faut faire attention aussi quand on dit, voilà, on nous ment, on nous manipule, etc. Enfin, le pas est vite franchi vers une tendance complotiste, en fait, hein, et qui, pour le coup, est dangereuse, aujourd'hui dans la société. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de, là encore, c'est d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies politiques, et puis il y a l'évolution de l'histoire qui fait qu'à un moment, on va considérer tel événement comme un génocide, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et ça, là aussi, c'est très montré, très travaillé par la recherche, hein. L'évolution des preuves, l'évolution des dénominations dans l'histoire, par exemple. L'évolution de la connaissance aussi. Enfin, il fut un temps où on n'avait pas une connaissance du planisphère et du globe tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est important de montrer l'historicité et l'évolution, qui n'est pas en fait forcément de la manipulation, qui est juste aussi une évolution de la connaissance d'un événement et d'un fait. Donc il faut bien différencier les choses pour pas justement se retrouver dans un « on ne peut plus faire confiance à personne » parce que pour moi ça c'est la négation totale de l'esprit critique en fait. Finalement sur l'esprit critique c'est pas non plus se retrouver à dire « on ne peut plus faire confiance à personne, rien ne va plus, tout le monde nous manipule, tout le monde nous veut du mal ». Ça c'est terrible parce que ça va venir alimenter les pires discours qui peuvent d'ailleurs être souvent ce sont des discours réactionnaires.
ChatGPT, est-ce qu'on y a le droit ou pas ? Enfin, est-ce que les enfants, dans le cadre de leurs études, peuvent utiliser cette source assez incroyable et en même temps loin d'être parfaite ?
Bon, c'est pas une source. Encore une fois, ChatGPT n'est pas une source. Non, ChatGPT n'est pas une source. ChatGPT est un agent conversationnel qui va fonctionner en allant par probabilité, en fait, hein, rapprocher des contenus entre eux, en allant fouiller des bases de données. Enfin, ce qu'il a considéré comme étant une base de données et qui n'est pas clair, puisqu'on ne sait pas du tout quel est le contour réel de cette base de données, puisque OpenAI, qui est l'entreprise qui a développé ChatGPT, n'a évidemment pas souhaité ouvrir cette source, et donc nous donner, ouvrir son code et donc nous donner accès à cette base de données. Donc attention, ce n'est pas une source, et ça c'est très important, c'est-à-dire que considérer ChatGPT comme une source, ben, c'est déjà là pour le coup, voilà, on revient à cette histoire de culture scientifique. Là, il manque un truc. C'est pas une source. C'est un robot conversationnel. Il va aller répondre. Il va chercher à répondre à une question qu'on lui pose, sachant que il répond beaucoup de bêtises parce que, ben, de fait, il fonctionne par rapprochement et non pas. C'est pas Wikipédia. Je suis désolée. Ça n'a pas la qualité du tout de Wikipédia, forcément, puisque Wikipédia, c'est une source d'information collective. C'est une source d'information. Alors là, incontestablement, qui est créé de façon collaborative, certes, mais ça n'empêche rien. Et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'encyclopédies. Hein. L'encyclopédie Larousse, c'est aussi une source qui est collaborative à la base. Hein. Donc voilà, ça c'est important. Et donc, ChatGPT, est-ce qu'on peut l'utiliser ? Bah, de toute façon, il n'y a pas de loi qui l'interdit, que je sache. Et ensuite, bah, bien sûr, les enfants et les adolescents l'utilisent, les adultes aussi. La question qui va se poser, elle est plus loin de ça, c'est-à-dire... qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on souhaite en faire aussi ? Est-ce qu'on va considérer qu'il y a plagiat avec ChatGPT ou pas ? À quel moment ? Là, pour le coup, il va y avoir des sessions de juridiques qui vont devoir sûrement être posées à ce moment-là.
Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut demander à ChatGPT de faire des fautes d'orthographe comme on était en quatrième
la réponse. Alors, donc... on précise quand même que ChatGPT n'est pas gratuit. Hein, et que pour accéder à un certain nombre de fonctionnalités, notamment avancées, il faut aussi payer pour avoir ces fonctionnalités avancées. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il ne faut pas prendre, là encore, les gens pour des idiots. Il y a des moyens de savoir détecter quand c'est tiré de ChatGPT. Et ils sont connus. Et les enseignants, notamment, sont... préparés à affronter cette question-là. Et puis, je crois qu'il y a aussi... moi, je crois là aussi, les peurs autour de ChatGPT, les fantasmes autour de ChatGPT sont intéressants parce qu'on retrouve les mêmes que ceux qu'il y avait eu avec Wikipédia en son temps. Et on retrouve les mêmes que ceux qu'il y a eu avec Google en son temps. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus d'apprentissage, il n'y aura plus de connaissances. Les élèves, ils n'auront plus qu'à recopier. On a entendu ça pendant des années autour de l'un et de l'autre. Et on en est toujours au même point. Enfin non, on a évolué avec. Et donc, je pense que là, c'est la même chose. Et si ChatGPT peut nous inviter et nous inciter à questionner les informations face auxquelles on est, puisque ChatGPT va nous balancer des choses et qu'il va bien falloir aller vérifier d'où ça vient et si c'est fiable ou pas, eh ben, quel formidable outil d'éducation aux médias et à l'information alors qu'est devenu ChatGPT sans le vouloir.
Anne Cordier, enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, peut-être pour terminer cette conférence « Apprendre à grandir connecté, utopie ou réalité » qui se déroule donc ce soir, le 9 janvier 2024, à l'invitation de la Maison de la Pédagogie de Mulhouse. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Enfin, quel intérêt d'aller rencontrer essentiellement des enseignants, des éducateurs, j'imagine? Quel message principal tu aurais envie de leur transmettre? À quoi ça sert d'être venu ce soir à Mulhouse?
Oh, mais ça sert toujours de venir à Mulhouse, j'imagine. Mais je pense que ce que j'ai envie, en fait, enfin, ce que j'espère pouvoir transmettre, c'est le plaisir, en fait, de s'informer ensemble, de chercher ensemble à comprendre ce monde qui est un monde, certes complexe, mais parce qu'il est complexe aussi passionnant, et de rappeler aussi l'importance de cultiver cette chance de pouvoir s'informer autant ensemble. Et de bénéficier aussi de cette communauté de médiateurs qui, tout milieu confondu en fait, d'intervention, se fédère pour et au service aussi de l'émancipation des plus jeunes.
Alors, on va aussi rappeler que Anne Cordier édite, enfin plutôt écrit des livres, hein, on peut en trouver quelques-uns à Mulhouse, la librairie Bizet, Place de la Réunion, ou presque, hein, ils ont déménagé de quelques mètres pendant les travaux, donc on peut acheter Grandir informé, qui est sorti en 2023, CEF édition, et également Les enfants et les écrans, mythes et réalités, en 2023 aussi, Retz édition, tout ça sur internet, mais plutôt dans une vraie librairie, avec un vrai libraire que vous pouvez toucher en achetant les livres d'Anne Cordier. Merci beaucoup d'être venu jusque à Mulhouse pour rencontrer les Mulhousiens et les Mulhousiennes. Merci Anne Cordier et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Merci.
Wunderparlement.
Wunderparlement.
Yes, do you have my voice?
Wunderparlament.
Apprendre à faire de la radio.
Il Presidente.
Uccia Radia.
Apprendre à faire radio.
Lire radio maken.
Chaque mois au Parlement européen à Strasbourg.
En el Parlamento Europeo de Strasburgo.
Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czekamy na ciebie.
In Strasbourg.
Toi aussi, tu peux venir.